Georges Ria, l'âme du pays. Matinée de neige. Il a neigé cette nuit sur la ville. Entr'ouvrant ses rideaux, Jean Loriot contemple les toits tout blancs sous l'air blême, la masse du bois de Boulogne qui grisaille dans le lointain, et sur les trottoirs, les balayeurs empressés à leur travail. Mal réveillé encore, dans le fauteuil près du feu, il rêve au pays. Voici la mansarde sous les bardeaux, avec son papier bariolé de chasse, qui répète à l'infini l'image d'une contrée où les arbres sont rouges, les animaux verts, les chasseurs bleus. Devant la petite vitre sertie de plomb, les géraniums robustes contre la froidure s'enlèvent en vigueur sur la lumière pâle. Soudain, la cloche, d'ordinaire si claire, teinte la messe en notes assourdies, comme ouaté. Sûrement, il y a du nouveau. Du nouveau prévu. Hier, toute la journée, la bise a sifflé sur les lomons. La terre résonnait sous le pas des chevaux. Et les gens, de s'empresser, grelottant dans leur passe-montagne, les joues cramoisies, les narines collées. Puis au soir, le vent est survenu, annonçant la neige. Elle est là, elle est sûrement là, sur la ferme, dans les champs, partout. Et le rêveur aurait au fait de s'en assurer, s'il ne faisait pas si bon ou chaud, dans le lit moelleux que la vieille matelassière Adélaïde a refait tout à neuf cet automne, en racontant pour la centième fois l'histoire de ses amours avec le grand Zéphyrin de la Malcombe. Il est si agréable de se recroqueviller sous le plumon, qui est bien la plus magnifique invention des montagnards. À quoi leur serviraient, en effet, les couvertures de laine, tissées ou même cardées, contre la gelée à pierre fendre? C'est pourquoi, tout au long de l'année, ils mettent en réserve les plumes de poules ou de canards, les entassent dans des têtes de toile, bises par-dessous, quadrillés de couleurs au-dessus, et les frimas survenus, au lit, narguent l'hiver. La masse du plumon s'arrondit sous le corps. Épouse toutes ses lignes, le clos sans issue, pesante et légère à la fois. Elle développe sous elle une chaleur méridionale, alors que, certaines nuits, l'air étreint la figure non protégée et la crispe. Au matin, c'est un crève-cœur que de quitter une pareille compagnie. Clélie, la servante, s'en doute bien. Elle paraît dans l'entrebâillement de la porte, avec des étels, des copeaux, du rondin, de quoi faire un bon feu, flambant au poêle.
« Bonjour, monsieur Jean. Avez-vous bien dormi ?»
Elle ne se croit plus permis, maintenant, de dire « Jean » tout court, et de le tutoyer.
« Oh, oui, très bien, mais c'est drôle. » « Je dormirai bien encore. »« Ah, ah, ah. Alors, vous trouvez que ce n'est pas assez, de 9h du soir à 8h du matin ? Vous serez donc toujours le même feignant ?»«
Mon Dieu, Clélie, tu sais, on fait ce qu'on peut. »« Dis donc, est-ce qu'il a bien neigé ?»«
Je vous crois, Il y en a bien un mètre devant la porte. Là, votre feu ronfle. Dépêchez-vous de descendre. Il y a de la soupe à la farine.
Pigre, un mètre de neige devant la porte. Mettons qu'elle exagère de moitié. C'est déjà joli. Brouh, brouh, il faut se renfoncer dans le plumeau bien vite.
Minute adorable. Le fourneau s'échauffe. Au plafond, une lumière plus blanche se diffuse. Le soleil, en face du lit, rose la fenêtre, et l'arôme de la soupe promet des délices.
C'est que la soupe à la farine est le triomphe de Kelly.
Sa recette est celle de chacun. De la farine roussie dans une casse, avec du beurre et des oignons. Elle y jette de l'eau, verse le tout dans une soupière, ajoute le poivre, le sel, de la crème, peu de choses comme on voit.
Mais il y a la manière.
Une manière qui finit toujours par faire lever le plus incorrigible des paresseux. Quelle sensation exquise, par surcroît, près de la fenêtre, dans l'atmosphère moite de la chambre, que de contempler la campagne blanche. Blanche jusqu'à l'infini. Au premier plan, les deux sapins, dont les branchettes, semblables à des manipules, chatoient comme des prismes. Plus loin, parmi la combe, les foyards paraissent des lampadaires enveloppés de gaz. Dans le vallon, les toits du village tapissent des bosses ouatées. Et tout au fond, ces roches d'or encapuchonnées d'hermine. La faux d'Anson qui recourbe sa ligne mate. Le Lomont, enfin, balayé par la bise, et où s'amoncèlent les menées de neige. Par-dessus, le silence, et le ciel bas, d'un bleu comparable à celui des vieilles soies.
Allons, bon, c'est cette énervante Clélie qui frappe au plafond avec une canne pour annoncer que la soupe est sur la table. Ah, si elle ne faisait pas de si bonne soupe. La peste soit de cette chipie. Voilà, voilà, on y va.
Loriot dégringole parmi le froid de l'escalier et s'engouffre dans la cuisine où le fourneau ronfle sous le manteau de la cheminée.
Eh bien, ce n'est pas malheureux,
s'écrie la servante.
Un peu plus, on allait vous chercher en procession, avec la croix et la bannière.
Mais le moyen de remettre à sa place une pareille impertinente, quand un fumet aussi délicieux dilate les narines. Il s'installe sans réplique au bout de la table, déplie sa serviette, non sans gravité, plonge le pochon dans le brouet, emplit son assiette et déguste. Brave Clélie! Pour faire plaisir aux gourmands, elle a grillé et beurré le pain. Mais certes, il est impossible de trouver dans le pays une meilleure cuisinière. Pour lui faire honneur, une deuxième assiettée n'est pas de trop.
J'espère que tu m'en laisseras,
sourit la tante du poète en entrant, les yeux gros d'une bonne nuit.
« Et à moi aussi, n'est-ce pas ?»
interroge Narquois, l'oncle de Niseau. « Quant à moi, poursuit le domestique Arthur, j'ai idée que j'y goûterais avec plaisir, s'il en reste. »«
Et moi, je meurs de faim !»
affirme la servante. Tous quatre s'esclaffent devant la mine des confites de l'accapareur, qui, son assiette d'une main, le pochon de l'autre, semble pétrifié par tant d'appétit. Vite, on le rassure. Clélie, pleine de prudence, a prévu le cas et doublé la dose. Dieu soit loué. La digestion d'aussi bonnes choses est douce dans le vieux fauteuil de famille près du poêle, parmi la chaleur. Dehors, le silence ou des bruits étouffés. Le poète écoule des heures lentes, tièdes, monotones, à peine intéressées par le va-et-vient de la ferme, par le triangle traîné par quatre chevaux qui s'efforcent de frayer un chemin, par les moineaux transis qui butent aux fenêtres ou piaillent leur misère sous le ciel morose. Quelqu'un au pas pesant racle ses sabots à la porte et s'ébroue sur le perron. C'est le garde général Aubier, auquel l'hiver crée des loisirs. Quelle neige, les enfants, quelle neige! Je n'en ai jamais tant vu depuis que je suis en Treverne. Le courrier n'est pas encore arrivé, et voilà qu'il va être 10 heures. 10 heures? Le rêveur sursaute, réveil douloureux. C'est pourtant vrai qu'il est 10 heures. Juste, il devrait entrer dans son bureau. Adieu le calme, la quiétude du foyer, la neige qui ne disparaîtra qu'à loisir dans les champs, s'obstinant jusqu'aux premières chaleurs parmi les replis de la montagne, à l'ombre des buissons. Un train de la ceinture, de cette compagnie qui entoure Paris de bruit et de fumée, rugit sous la fenêtre du poète. Des voituriers et cochers s'injurient. À grand renfort de sel, les cantonniers transforment la neige en une boue noirâtre, où il va falloir patauger. Car la vie réclame l'effort de chaque jour, pauvre du rêve et de la fantaisie. Ce fut le rêve qui l'emporta. Jusqu'au soir, Jean Loriot ne fit que songer au pays. Au long des heures, accomplissant comme une machine sa besogne, agréable pourtant à l'ordinaire, il revécut ses 30 années de vacances au Lomont, en ce coin perdu de la montagne comtoise qui lui était si chère. Souvent, Noël et Pâques, toujours l'été et l'automne, l'y ramenaient, l'âme pleine d'allégresse. Il retrouvait là de braves gens, l'oncle Denisot, sa femme, leur nièce Lucette, le domestique Arthur, Sidney le berger, le garde général Aubier, Monsieur Naudet le vétérinaire, Monsieur le curé Barberet, etc. Et cette bonne ferme du Lomont, allongeant son corps de logis, ses hébergages et le charri devant le jardin, planté de sorbiers, dans une sorte d'oasis verdoyante, rendue plus intime par le rideau d'arbres qui l'environne de toutes parts. Autour, c'est le communal, violet de bruyère, des grattans, d'où la vue porte jusqu'aux crêtes de Suisse et d'Alsace. Le village, à gauche, avec ses toits rouges, blottis dans la verdure. Et, à droite, la vallée du Doubs, accompagnée de rochers à pic. Les pâturages, le moindre buisson, les chemins et les sentiers, les campagnes des troupeaux, les cloches de l'église, tout lui redisait son enfance et sa jeunesse. Les hommes et les choses étaient ses amis. Or, les circonstances de la vie l'empêchaient désormais de les revoir aussi longtemps qu'il l'aurait voulu. Donc, pour compenser cette absence, il résolut de les décrire avec cette réserve que commande la simple discrétion, comme dit Renan. Et ce soir d'hiver, il commença d'évoquer l'âme du pays.